meilleure vengeance. Le fils de Benazir Bhutto s'est depuis envolé pour Dubaï, puis la prestigieuse université d'Oxford en Angleterre, où il va continuer sa scolarité. Et c'est son père, le mari de l'ex-premier ministre assassiné, qui en son absence reste aux affaires. Pour les cousins dissidents, Bilawal est beaucoup trop jeune pour diriger le parti.
Il est un enfant très gentil, je l'ai vu grandir.
Ranwa Bhutto.
Je l'ai vu quand il était un tout petit bébé, quand je visais ma belle-sœur à Islamabad, dans la résidence du Premier ministre. Il frappait à la porte de sa mère, il apprenait à marcher. J'espère qu'il trouvera une façon d'éviter cette responsabilité à cet âge très très jeune. C'est un enfant qui est très très gentil et je ne peux pas le voir maintenant prendre une responsabilité comme ça. Mais du point de sens politique, je pense que c'est le père qui va prendre charge du parti.
My personal gut feeling was that Asif would move in.
Je pensais personnellement qu'Asif allait faire ce pas, qu'il allait devenir le régent et que Bilawal serait, lui, le dauphin. C'était presque sûr.
Imran Aslan, président de la télévision privée GeoNews.
L'autre personne qui avait une chance, Sanane, ne voulait pas, selon eux, entrer en politique. Alors oui, il y aura forcément des divisions au sein du parti. D'abord parce que Bilawal est trop jeune et que c'est donc Asif qui va co-diriger. Or, après le dernier gouvernement de Benazir Bhutto, c'est lui, Asif, qui a été considéré comme le responsable de toutes ces erreurs. Comme dit la rue aujourd'hui, Monsieur 10% est devenu Monsieur 100%.
Mr. 10% is now Mr. 100%.
Zardari, c'est pas la famille. Parce que même la politique, c'est pas la même. C'est pas la famille du point de vue valeur, ni non.
Asif Zardari, surnommé Monsieur 10% par la rue sous le gouvernement de son épouse. Asif Zardari, le moustachu survolté, voix noyée par la colère. C'est lui qu'on voit apparaître régulièrement à la télévision depuis la mort de Benazir Bhutto. C'est lui aussi, Asif le mal-aimé, qui a repris les rênes du parti. Accusé autrefois de corruption, de trafic de drogue et même de meurtre, il est très loin de faire l'unanimité. Imran Aslam.
Asif is a businessman.
Asif a toujours été un homme d'affaires. C'est quelqu'un qui a appris quelques rudiments de politique et qui a souffert de ses années passées en prison. Mais au final, beaucoup de gens n'ont jamais accepté qu'il soit un outsider dans le clan
Bhutto.
Zardari n'est pas un Bhutto et ça compte au Pakistan. C'est triste d'ailleurs, car le PPP est le parti le plus démocratique. Mais c'est comme ça. La reine est morte. Vive le roi, ça ne marche pas ici.
The queen is dead and long live the king. It just didn't work.
On ne plaisante pas avec le nom des Bhutto. Devant le mausolée familial, les enfants vendent des pétales de roses dans des pochons en plastique. Le cercueil de Benazir Bhutto est entièrement recouvert de fleurs. Les militants pleurent la disparition de leur leader. Mais une fois dehors, une fois que les pick-up chargés d'hommes en armes ont disparu dans la poussière, certains laissent enfin parler leur cœur. Et c'est encore Zardari qui est au centre des préoccupations.
We can't say he's so determined and dedicated to Pakistan as much as Benazir was. That's a fact.
On ne peut pas dire qu'il soit aussi déterminé et dévoué que l'était Benazir pour le Pakistan. Espérons qu'il le devienne dans le futur. Espérons-le. C'est d'ailleurs ce que veulent croire tous les Pakistanais. Et pour vous dire la vérité, je n'en suis pas complètement sûr.
I'm not really sure. Yeah, truly sure. I'm not that sure.
Et revoilà les corbeaux. Les Romains disaient que les corneilles vivaient plus longtemps que les hommes. Le proverbe vaut certainement aussi pour les seigneurs de la terre au Pakistan. Amour, gloire et cruauté. Certains n'ont d'ailleurs pas hésité à parler de Kennedy à la pakistanaise. Dans la maison de la belle-sœur à l'Arkana, cette fois, c'est la fille qui nous reçoit. Un mélange de Salma Hayek et de Benazir Bhutto. La jeune fille assise devant nous a les cheveux fins comme la soie, le nez, la bouche de l'actrice d'origine mexicaine. Elle a surtout le regard déterminé de sa tante. Fatima est une Bhutto, c'est sûr, mais elle se méfie de son héritage.
That I don't believe politics is a birthright.
Je ne crois pas que la politique soit un droit de naissance. Ce n'est pas quelque chose pour lequel on est désigné. Je suis politique dans mes écrits, je suis militante de différentes causes, mais je pense que le Pakistan doit ouvrir la politique à d'autres. Et personnellement, je ne me suis jamais dit que j'étais automatiquement le meilleur choix à cause de mon nom ou de ma famille.
And I've never personally felt that because of my name or my family, I'm automatically likely the best choice, and I felt this for many years.
Elle est très jeune aussi, elle a 25 ans. En plus, regardez, bien oui, on vit dans une société très traditionnelle, des sociétés où il y a des tribus, ils croient à la loi héréditaire et on respecte ça, mais je pense que ce n'est pas nécessaire. C'est bien notre droit, dans les yeux des tribus, de prendre le pouvoir, mais ce n'est pas suffisant. Le parti de Zulfikar Ali Bhutto était un parti socialiste. Mais pendant 20 ans, le PPP sous Benazir n'ont pas réussi à faire ça. Alors, pour Fatima, il n'y a pas d'urgence, ce n'est pas le dernier train. Elle a besoin de plus de temps pour être en contact avec les gens avant de prendre charge du parti. Pas comme un droit, mais comme un devoir.
La politique comme un devoir. Sur l'autoroute de Karachi, les traces des émeutes qui ont suivi l'assassinat de Benazir Bhutto sont toujours visibles. La carcasse d'un camion-citerne incendié est encore fumante sur la chaussée. La police des autoroutes a été attaquée et au péage, les personnels ont tous déserté. Désormais, la circulation a repris, mais à Karachi, la grande mégalopole du Sud, on est encore sous le choc. Près du grand marché aux souvenirs, au centre-ville, on se bouche les oreilles. Les haut-parleurs saturent d'avoir trop prêché, mais qu'à cela ne tienne, au parti du peuple pakistanais, on ressasse que tout va bien. Le nom des Bhutto, c'est de la glu, c'est aussi le refrain de la main droite de Benazir, comme on l'appelle ici, l'un des proches de l'ex-premier ministre avant sa mort. Makhdoom Aim Fahim, l'un des penseurs du PPP pressenti comme futur premier ministre du Pakistan en cas de victoire du parti aux législatives.
Le parti est uni, il n'y a aucun doute là-dessus. Nous avons accepté les vœux de Benazir. Asif Zardari co-dirige le parti avec à sa tête son fils Belawal.
Mais Asif Zardari n'est pas populaire.
Je le répète, le parti est uni.
Le parti reste uni à voir. Dans les rues de Karachi, à la télévision, dans les boutiques, chez les particuliers, le visage de Benazir Bhutto est affiché partout. Certaines banderoles sont même encore surmontées d'un immense « Welcome » en anglais pour saluer son retour triomphant le 18 octobre dernier, après plusieurs années d'exil, dans la ville même où elle s'est mariée. Une absence omniprésente qui aura forcément des conséquences, estime le président de GeoNews.
Il y a, c'est sûr, des problèmes à l'intérieur du parti et j'ai été surpris de voir qu'au moment de la succession, des leaders sont restés à distance de Zardari. Ce sont des choses que l'on remarque ici. Pour que le PPP remporte les élections, il faut gagner le Pendjab. Et cette affaire a eu un écho dans le Pendjab. À mon avis, le parti tiendra comme ça jusqu'aux élections, mais après, les divisions vont éclater au grand jour et elles seront exploitées par le gouvernement.
Et des divisions qui d'ailleurs dépassent le parti. Après l'assassinat de Benazir Bhutto, certains Sindhis ont accusé les Pendjabis du meurtre de leur leader. En face au Pendjab, évidemment, certains ne sont pas en reste.
This is issued by the government sponsored party, that is the Muslim League. You know, this is Pakistan Muslim League.
Tenez, voici un avertissement imprimé dans le journal par la Ligue musulmane du Pakistan qui soutient Pervez Musharraf. Il y est écrit que près de Ben Qasim, 12 jeunes filles ont été kidnappées puis violées dans le village. Autrement dit, ils accusent les Sindhis de les avoir violées. Voilà ce que des responsables du parti du gouvernement font publier dans la presse. Cela provoque des affrontements entre Sindhi et Pendjabi. Nous le condamnons fermement.
We condemn this. We have demanded that People's Party is not a regional party. People's Party is a party of the Pakistan.
Le parti du peuple pakistanais respecte les habitants des quatre provinces. Pendjabi, Baloutch, Pashtun et Sindhi. C'est un échec du gouvernement. Ils ne sont pas en mesure de contrôler la situation.
Retour à l'Arkana, Inao Dero, où les Bhutto élèvent l'antilope cervicapre, l'animal le plus rapide du monde, symbole de la région. mais qui pour l'instant n'a pas permis d'échapper à la malédiction. Le parti fondé par Zulfikar Ali Bhutto adhère à l'International Socialiste et chez Ranoi, la belle-sœur, on en est persuadé, seul un réveil des racines populaires du parti pourrait éviter au pays de nouveaux déchirements.
De quoi a besoin le Pakistan ? Le Pakistan a besoin de tout, mais pour faire ce tout efficace, il faut que les gens prennent le pouvoir dans leurs mains. Alors ils ont besoin de la démocratie, pas seulement la démocratie des élections, ils ont besoin de pouvoir dans leurs mains. Aujourd'hui, les gens n'ont rien en main. Ils sont oppressés par leur police, ils sont oppressés par leur classe féodale, ils sont oppressés par les riches, ils sont oppressés par les grands pays.
The Bhutto family, there are a lot of myths built around them.
Il y a de nombreux mythes autour de la famille Bhutto, beaucoup d'espoir aussi. Qu'il soit fondé ou non, c'est une famille à laquelle les gens sont attachés en politique parce qu'elle s'est toujours battue pour les droits des plus démunis dans ce pays. Alors je ne sais pas si toute cette violence fait partie du mythe. Parfois, elle me semble trop familière. Toutes les décennies, nous enterrons un Bhutto assassiné. Je crois qu'il est temps de mettre fin à ce cycle de la violence, non pas seulement contre la famille, mais contre le monde entier, pour nous protéger.
I think on one hand, people have to come out and say enough. People have to say no more.
Il faut que les gens disent ça suffit. Nous devons considérer tous les meurtres comme une attaque personnelle. En 2006, par exemple, un responsable politique du Baloutchistan a été tué au Pakistan. Ce n'était pas une attaque contre le Baloutchistan ou contre le système tribal. C'était une attaque contre tout le Pakistan. Quand on aura réalisé cela, on pourra peut-être se protéger.
C'est une attaque sur tous. Et quand on a réalisé cela, je pense que nous pouvons nous protéger.
Protéger la famille, protéger le Pakistan. Le credo est aussi celui du cousin Bilawal, apparu à la télévision depuis Londres, une semaine après avoir quitté le pays.
J'aime mes cousins, mais quand ma mère était en vie, il ne supportait pas sa vision politique. Je ferai tout pour réunir les deux parties de la famille. Pour l'instant, j'ai peur pour mon pays. S'il n'y a pas d'élections libres et transparentes, j'ai peur d'un éclatement du pays.
Et Bilawal n'est pas le seul. Dans la province, beaucoup redoutent que les législatives du 18 février tournent au pugilat interethnique, pour ne pas dire à la guerre civile, avec la crainte que cette fois, les Bhutto orphelins ne puissent rien y faire. La malédiction des Bhutto, un reportage dans la province du Sindh de Stéphane Lagarde et Manu Pochez. Thank you.
La Simplicité volontaire, vous connaissez? Le groupe de Simplicité volontaire de Québec vous invite à découvrir cette philosophie de vie qui encourage le désencombrement tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de soi et oriente nos vies en accord avec des valeurs humaines, sociales, écologistes et pacifiques. Ne manquez pas, en toute simplicité, tous les jeudis de 17h à 18h à l'antenne de CKIA au 88,3 FM.
« Vous voulez faire de la radio? Vous avez un projet d'émission? CKIA FM est à la recherche de réalisateurs pour présenter une émission tous les lundis 20h. Remplissez le formulaire de projet d'émission disponible sur le site de la station au www.ckiafm.org. CKIA FM, des ondes à votre portée.
Radio Alternative vous invite à écouter le monde autrement.
Radio Alternative, c'est de l'information internationale, des entrevues sur des questions sociales d'ici et d'ailleurs, un babillard radiophonique des mobilisations régionales et nationales, de l'information culturelle à contre-courant et de la musique engagée.
Radio Alternative, l'autre visage de la mondialisation, tous les jeudis 18h, en rediffusion le vendredi 10h sur les ondes de CKIA 88.3. Pour information, 521-4000.
Tous les lundis à 18h, écoutez Homologue, votre émission d'information sur la diversité sexuelle avec Normand Boudreau et Florent Tanlet. Actualités commentées, différentes chroniques de société, d'histoire, de découvertes inédites, d'art et de culture sont au programme. Homologue, c'est donc l'émission à ne pas manquer tous les lundis soirs à 18h sur les ondes de CKIA 88,3 FM.
Ici Karen Young. Vous êtes à l'écoute de CKIA FM 88.3 à Québec. Tendez l'oreille, on parle de vous.
Este canon me nació cantando y andando por ahí. Por eso cuando lo canto me da gana.
Tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse.
Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah!
Paladin niveau 66. Archimage 57. Ok, vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans.
I got that lipstick smeared around my face. I got them skinny girls playing at my place. I'll give you stories, they won't be up straight. Cause when you're not there, you know I can't wait. Ain't the first time I caught you out again. You spent your time in a little cubicle. In a cubicle.
À tous les postes, soyez prêts pour hyper atomique exponentielle.
Scotty, il me faut la puissance maximum.
Et oui, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur les ondes de CKIA. Et puis si vous êtes sur lepetitpeuple.fr en train de nous écouter, bien, bon, bienvenue à vous aussi, vous qui êtes peut-être en France ou n'importe où ailleurs dans le monde. C'est un petit peu la magie d'Internet et de la radio, ce qui fait qu'on est très content de pouvoir vous rejoindre aujourd'hui. Une nouvelle émission de Puissance Maximale, votre magazine de jeux sur les ondes de CKIA, comme je viens de le dire. Au micro, Sébastien Léonard. Puis aujourd'hui, eh bien, j'espère que vous êtes prêts en fait pour atteindre cette puissance maximale, parce que nous, eh bien, nous le sommes. Et je suis en compagnie de Kevin Labrec. Bonjour Kevin.
Bonjour Sébastien.
Kevin qui va nous accompagner tout au long de l'émission. Kevin qui est aussi notre spécialiste de grandeur nature, cet autre domaine des jeux, et qui va nous parler tout à l'heure de comment confectionner des armes en mousse. On s'entend. Pas d'armes qui pourraient engendrer aucun petit problème vis-à-vis des enfants. On s'entend là-dessus.
Absolument pas.
Voilà, c'est ça. Puis en plus, ça sera comment construire des armes avec un tout petit budget, ce qui fait que pour tous ceux qui veulent peut-être s'amuser avec leurs enfants, ça serait peut-être le meilleur moment pour vous de rester à l'écoute de Puissance Maximale. Mais en attendant, eh bien, nous allons parler d'un sujet qui nous tient à cœur beaucoup ici, puisqu'il s'agit de ludothèques. En fait, un petit peu partout en Europe et en particulier en France, se sont développés depuis quasiment une vingtaine d'années des lieux où les jeux sont à l'honneur et où toutes générations confondues, même je dirais toutes appartenances ethniques confondues, les personnes peuvent se réunir pour jouer et louer des jeux. En fait, c'est basé tout à fait sur le concept des bibliothèques. Ces lieux sont appelés en fait des ludothèques. C'est un phénomène qui a pris beaucoup d'ampleur en Europe en particulier depuis quelques années, à tel point que c'est le statut même du jeu qui a subi une transformation, puisque là-bas on commence à percevoir le jeu non pas comme un simple divertissement, mais aussi comme un objet culturel. Et oui, on en parle aussi en Europe de ce type-là d'avenue. On parle en fait quasiment de 10 000 ludothèques répartis dans le monde. Là, on ne parle pas de ludothèque, cette espèce d'armoire où tous les gros gamers viennent mettre tous leurs jeux. Là, il s'agit vraiment d'un endroit très particulier où on vient louer des jeux. Donc, il y en a plus de 1125 en France. Au Québec, évidemment, vous comprendrez que le phénomène est un petit peu plus marginal. J'irais même jusqu'à dire quelque peu faible, ou en tout cas, en émergeant. Et puis c'est un petit peu sur cette problématique-là qu'on va se pencher aujourd'hui. Et bien, pour mieux comprendre cette problématique, justement, nous sommes tournés vers deux lieux différents qui sont aux antipodes, je dirais, de leur évolution, mais aussi de leur localisation. On est d'abord allé en France interviewer Manuel Rozoy, responsable de la ludothèque de Boulogne-Billancourt, en plein cœur de Paris, qui est... Boulogne-Billancourt, qui est devenue au fil des années une des ludothèques majeures, j'irais même jusqu'à dire certainement la plus grande ludothèque du monde, avec plus de 460 000 mètres carrés d'exposition de jeux. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la grosseur de ce lieu-là, avec 11 000 boîtes de jeux qui sont à la disposition de tous les adhérents. Avec évidemment, pour ceux qui connaissent, un concours extrêmement populaire et très prisé de jeunes créateurs qui est reconnu internationalement aussi, et évidemment qui vient tout récemment de passer du statut de simple ludothèque à celui de centre national des jeux. Donc on parle ici d'un leader dans le domaine. Et à l'opposé, puisqu'il faut toujours avoir un pendant, à l'opposé, nous sommes allés nous tourner vers le Québec, vers la rive sud en fait, en particulier où on a trouvé une ludothèque, et oui, on arrive à en trouver de temps en temps des ludothèques. Il y en a même sur la rive sud, il y en a une en fait, pour être plus précis, il n'y en a pas du tout à Québec, qui vient de s'installer, et on comprendra que les problématiques sont totalement différentes, mais les points de vue et l'énergie qui se dégagent, des membres restent le même. Donc, tout de suite, pour commencer, nous allons faire un petit tour à Boulogne-Billancourt, je viens de le dire, en plein cœur de Paris, où nous avons parlé la semaine dernière avec Manuel Rozoy, qui nous expliquait qu'est-ce qui se passe pour la plus grosse ludothèque d'Europe en ce moment.
Manuel Rozoy, merci d'avoir accepté l'entrevue. Vous êtes responsable du concours de créateurs à Boulogne-Billancourt, en plein cœur de Paris. Tout d'abord, pourriez-vous nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une ludothèque ?
Alors, une ludothèque, c'est un lieu qui est un peu à l'équivalent d'une bibliothèque, on pourrait dire. C'est un lieu où on pratique le jeu de société, donc où on vient pour jouer sur place. Donc, comme dans une bibliothèque où on vient lire, où on vient consulter des livres, on peut aussi emprunter des jeux, comme dans une bibliothèque où on emprunte des livres. Donc, c'est à peu près l'équivalent d'une bibliothèque, sauf que c'est axé uniquement sur le jeu. Alors, il faut préciser que c'est le jeu de société, c'est pas le jeu vidéo, c'est consacré uniquement aux jeux de société, donc, et ça peut englober le jeu de rôle, etc. Donc toute la pratique du jeu, en fait, concentrée dans un lieu.
Dites-moi, au niveau des... vous l'avez un petit peu explicité ce que c'était exactement comme type de jeu, mais ce que j'ai pu voir sur Internet au niveau des activités, c'est quand même que vous organisez vraiment aussi des jeux de figurines, par exemple, ou des jeux de rôle. Il y a donc énormément d'activités qui sont mises en place à la ludothèque. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu c'est quoi les activités qui entourent la location à proprement parler des jeux ?
Alors, on a plusieurs sections. On tourne à peu près autour de 1200 adhérents par année. Il y a une moitié de ces adhérents qui sont consacrés sur la... C'est essentiellement des enfants. Donc, c'est des gens qui viennent en famille pour jouer aux jeux de société. Alors, ça va vraiment des petits-enfants à partir de 3 ans jusqu'à 12 ans, 12-13 ans. Donc là, c'est une pratique du jeu de société tel qu'on le connaît, des jeux contemporains, généralement. Et puis, à côté côté de ça, il y a tous les classiques, donc qui sont le bridge, le go, les échecs. Voilà, il y a tous les classiques qui peuvent être pratiqués. Et puis aussi les jeux de société qui sont jeux de société où il y a une section qui s'ouvre toute la nuit de 8h du soir jusqu'à 6h du matin, qui est uniquement ouvert pour les adultes et qui là peut accepter. En fait, on pratique du jeu de société. Donc tous les nouveaux jeux de société qui arrivent essentiellement d'Allemagne ou de France, parce qu'il y a beaucoup de créateurs. Et puis il y a aussi du jeu de rôle, donc Donjons et Dragons, etc. Il y a du jeu de figurines, Warhammer Battle, où là on va faire des combats avec des figurines qu'on a peintes au préalable. Donc voilà, donc il y a tout un univers qui essaie d'être représenté. Ce qui est important de savoir, c'est que les ludothèques, et ce qui fait une particularité de Boulogne, c'est qu'on est moitié sur à peu près 500-600 adhérents sont des enfants et leurs familles, et l'autre moitié sont uniquement des adultes. Donc c'est une pratique qui va vraiment de 3 à 78 ans.
Dis-moi, est-ce que c'est quelque chose d'extrêmement rare en France, ça, les ludothèques, ou est-ce que c'est quand même assez généralisé?
Alors en France, il y en a beaucoup. On est un peu là, apparemment, il y a environ 1150 ludothèques en France. Donc il y a toute une association qui est l'Association des ludothèques de France. C'est quand même c'est vraiment les politiques actuellement. Ça fait la première ludothèque en France a été créée en 1967 à Dijon. Nous on arrive 1978, donc on est vraiment pas loin. Il y a énormément de ludothèques. Alors ce qu'il faut voir, c'est que c'est essentiellement des ludothèques qui sont consacrées pour les enfants, mais de plus en plus on voit des activités qui sont consacrées aussi pour les adultes.
Dis-moi, en Europe, est-ce que c'est généralisé aussi, ou c'est vraiment la France qui est un leader au niveau des ludothèques ?
Alors, il y a une énorme spécificité française sur les ludothèques. Parce qu'on voit, par exemple, en Allemagne, qui est pour nous un petit peu l'Eldorado du jeu. C'est vrai qu'il y a énormément de créations, il y a énormément de jeux nouveaux qui sortent, surtout sur le jeu de société contemporain. Mais ils n'ont quasiment pas de ludothèques, tout simplement parce que le système n'est pas le même. C'est-à-dire que là-bas, dans les bibliothèques, on peut aussi louer des jeux. Donc, c'est associé aussi à des bibliothèques. Il n'y a pas de ludothèque précise et on joue plus en famille. Donc, c'est une pratique qui est plus acceptée. Pour jouer, on va emprunter et on va jouer en famille plutôt que dans un lieu public dédié à ça.
Dis-moi, je sais que la ludothèque de Boulogne-Billancourt, ça fait un petit peu office de phare au niveau de tout ce qui se fait au niveau des jeux. Vous êtes extrêmement actif, que ce soit au niveau de la création, parce que vous avez un concours de jeunes créateurs qui est extrêmement suivi, puis qui est important au niveau même quasiment au niveau de l'économie. Est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu toutes ces activités annexes au niveau du concours, puisque toi-même, tu es en charge de cette partie-là?
Alors le concours, il existe depuis 1977, c'est vraiment un vieux concours qui a vu passer énormément d'auteurs reconnus maintenant. En fait, c'est vraiment une longue étape, parce qu'on est en plein dedans en ce moment, les inscriptions finissent au 15 février, donc on reçoit toutes les fiches d'inscription, et puis on regarde après sur les fiches d'inscription. On va sélectionner, chaque année on en reçoit à peu près 150 à 200 fiches d'inscription. Il y a une énorme participation du Québec, oui. qui est vraiment importante, de plus en plus d'ailleurs. Mais c'est vraiment international, c'est-à-dire qu'on reçoit des jeux du Brésil, de Norvège, des États-Unis, enfin d'un peu partout dans le monde en fait. Donc à peu près 50% français et l'autre 50% le reste du monde. Et puis on va sélectionner des jeux, une cinquantaine, qui vont être testés, et après présentés pour avoir une sélection finale de 20 jeux qui vont être présentés à un jury international et de professionnels qui vont primer 4 jeux. Et ces 4 jeux, donc on passe quasiment de 200 jeux à 4. Ces 4 jeux, évidemment, vont avoir un coup de projecteur sur eux. C'est-à-dire que nous, après, on part dans les salons internationaux de jeux pour montrer ces jeux à ces éditeurs. Et depuis que le concours existe, en fait, il y a à peu près 70 jeux qui sont passés par le concours et qui ont été édités, dont des classiques comme Abalone, etc., etc. Ça, c'est une vitrine importante parce que c'est la partie création, donc c'est la partie future d'essayer de découvrir des auteurs de jeux. Il y a toute l'autre partie de la ludothèque de Boulogne qui est le conservatoire du jeu. Et ce conservatoire, pour l'instant, c'est depuis 25 ans, en France, il n'y a pas de dépôt légal, c'est-à-dire qu'on ne peut pas déposer un jeu vraiment comme il existe. Donc on a commencé à conserver des jeux, essentiellement des Français. On était arrivé jusqu'à il y a 3 ans à 6000 boîtes de jeux. Et puis on a eu l'opportunité avec des partenaires divers comme des institutions locales ici et puis des partenaires privées comme la Française des Jeux, qui est l'équivalent, enfin, l'équivalent de la loterie, qui nous ont aidés financièrement pour acheter une collection américaine de 6000 jeux d'un grand collectionneur américain. C'est-à-dire que maintenant, on passe à 11 000 jeux qui datent, le plus vieux est de 1840. Donc là où on conserve tous ces jeux-là, on les archive et on va essayer au fur et à mesure, déjà on passe par l'archivage, et de donner à ça à tout le monde, que tout le monde puisse avoir accès à ça.
Dis-moi, c'est un pas très important qui a été fait là. Par exemple, en plus, vous avez changé quasiment de statut. Maintenant, vous êtes passé d'une simple ludothèque au statut de centre national du jeu. Tout ça, ça fait partie finalement de la même vision, j'imagine.
Tout à fait, c'est toujours axé sur la même chose, c'est sur ces trois pans-là. Le Centre National du Jeu, quand j'ai dit trois pans, juste pour revenir, c'est vraiment le futur du jeu, c'est-à-dire la création, la pratique ludique, parce qu'un jeu sans être joué n'a pas de sens. Il peut être archivé, mais il faut qu'il soit joué, donc c'est toute la pratique, donc c'est le présent. Et puis le passé, qui est l'histoire du jeu, parce que c'est important que le jeu de société, il a une histoire, et c'est important qu'elle soit connue de tous, et qu'il permet de voir qu'il n'y a pas que le Monopoly, le Cluedo. Il y a eu énormément de choses et que le jeu est en fait un objet culturel et de culture populaire, comme pourrait être la bande dessinée ou n'importe quel autre média. Donc ça, c'est les trois pans et ça va vraiment prendre une autre ampleur en 2010, car là, tous les partenaires locaux, les politiques locales, les institutions nous permettent en 2010 d'avoir un bâtiment de 1900 m² qui s'appellera effectivement Centre National du Jeu, où on va essayer de mettre en pratique ces trois pans du jeu de société, et surtout de centrer toutes les informations, toutes les pratiques ludiques, ou qu'il y ait un centre en France qui puisse justement divulguer cette parole et faire accepter le jeu comme un objet culturel.
Manuel Rozoy, merci beaucoup pour l'entrevue. J'espère qu'au Québec, on va être capable peut-être un jour de pouvoir faire quelque chose qui va être un petit peu similaire à ce qui se passe en France, parce que le mouvement est extrêmement intéressant, que ce soit au niveau du changement de statut du jeu qui est en train de passer d'un simple objet ludique à quelque chose de beaucoup plus matériel, culturel, justement.
Oui, mais ça, je me fais pas trop de soucis pour le Québec, vu le nombre d'auteurs québécois qui nous envoient leurs jeux. C'est qu'il y a un énorme potentiel créatif au Québec, tel qu'on le voit ici. À mon avis, ça va arriver.
Merci beaucoup, Emmanuel Rozoy.
Merci.
Bonne journée, au revoir.
Au revoir.
Tu déconnes, on va pas se faire encore un plan. Thank you.
je suis Normand Lamour et puis vous écoutez Puissance Maximale. Mon petit
bébé. Et oui, même Normand Lamour nous écoute, donc imaginez un petit peu. Là, vous êtes toujours sur les ondes de CKIA, c'est l'émission Puissance Maximale. Au micro, Sébastien Léonard. Tout à l'heure, eh bien, on a vu que l'exemple de la ludothèque de Boulogne-Billancourt, où l'ampleur du phénomène des ludothèques peut servir un petit peu de moteur à l'activité ludique à travers la province ou même dans le pays, en France par exemple. L'évolution est éventuellement beaucoup plus lente ou plus fragmentaire lorsqu'il s'agit d'implantation. C'est un petit peu plus le cas de la réalité québécoise qui est bien différente de celle de Paris, on la comprendra. Puis pour mieux comprendre un petit peu ce qui s'y passe ici, nous avons invité Manon Roy, elle est ludothécaire, et oui ça existe même ici des ludothécaires, des Chutes de la Chaudière, et travaille pour l'organisme La Maison de la Famille. Bonjour Madame Roy.
Bien le bonjour monsieur.
Oui, ça doit laisser rêveur quand même d'écouter ce qui se passe dans la ludothèque de Boulogne-Billancourt. Pourtant j'imagine que bon, évidemment, la réalité ici est bien différente de ce que peuvent vivre les ludothèques en France.
Alors, je vous dirais que heureusement pour moi, il y a beaucoup de développement à faire aussi au Québec et au Canada. Malheureusement, nous n'avons pas eu la chance d'avoir des budgets de développer autant qu'en France et en Europe. Par contre, je crois que les gens qui sont maintenant sur place sont de plus en plus sensibilisés au fait que le jeu est un effet éducatif pour les enfants, autant pour les enfants que pour les adultes.
Dis-moi Manon, j'ai une question pour toi toute simple. En fait, j'aimerais juste que tu nous expliques, parce que là, on vient déjà de l'expliquer une première fois, c'était quoi une ludothèque, mais explique-nous à quoi ça ressemble la ludothèque qui est sur la rive sud, parce que vous êtes installé sur la rive sud. J'aimerais que tu nous présentes exactement ta ludothèque pour que les gens puissent comprendre ce que c'est, puis où elle est, ce que vous y faites en fait.
OK. Alors, la ludothèque ressemble beaucoup à une bibliothèque. Nous avons 1500 jeux présentement. Nous achetons environ entre 3 et 5 pour 5000 piastres de jeux nouveaux à chaque année. La ludothèque offre la possibilité à tous, de 0 à 99 ans, de venir nous rencontrer sur place du lundi au samedi. Et de louer des jeux sur place ou encore de jouer même. Nous avons aussi pour les parents ou pour tous ceux qui veulent, des trois ordinateurs qui sont à la portée de tous. Et c'est une ambiance très chaleureuse, très conviviale. On peut conseiller les gens. Mm-hmm. Nous pouvons aussi avoir des... avec la Maison de la Famille, nous avons la possibilité de faire... des thématiques avec les enfants qui ont peut-être la difficulté pour le vocabulaire, les choses sociales.
Dis-moi, c'est quand même le rêve pour tout gamer, là, pour toute personne qui aime ça jouer, de pouvoir avoir accès à plein de jeux différents. J'imagine que ça doit être un petit peu ça que tu reçois comme clientèle, ou est-ce que c'est juste des parents qui viennent avec leurs enfants et puis qui vont chercher peut-être des joujoux pour leurs enfants plus particulièrement? C'est quel type de clientèle que vous visez?
OK. Ce qu'il y a présentement, c'est surtout effectivement de la clientèle des parents avec les enfants. Ce qu'on vise éventuellement, c'est justement d'atteindre les adolescents qui ont un certain intérêt, mais non développé. Alors, on va dans les écoles, on va aller aussi dans les lieux publics où est-ce que nous pouvons avoir le chant de cloche des adolescents. Et éventuellement, on aimerait aussi peut-être des groupes de jeux. Ceux qui jouent au Scrabble, ceux qui viennent de l'extérieur pour s'assembler, pour avoir la possibilité d'avoir cette magie-là sur place. Oui, effectivement.
Tout à fait. Puis moi, je t'avouerais que ce qui m'émerveille aussi, c'est le jeu, c'est de toute façon quelque chose qui rassemble. C'est ça l'esprit du jeu, là, c'est de pouvoir rassembler le monde, puis de les divertir, mais aussi de pouvoir les mettre en contact les uns avec les autres. J'imagine que ça aussi, ça doit être un moteur puissant, c'est-à-dire la possibilité pour des parents de rencontrer d'autres parents, de peut-être voir d'autres choses, et puis de sortir de chez eux un petit peu, finalement.
Écoutez, moi, ce que je compare à ça, malheureusement, ici au Québec, c'est les McDonald's qui perdent de leur cachet présentement parce qu'ils visent les personnes âgées et ils perdent la clientèle des jeunes. Et nous, nous allons aller la récupérer, mais en mieux parce que nous, c'est plus éducatif que jouer avec des glissades ou autres. Puis en plus, nous allons éventuellement, on espère nous aussi, avoir des éducateurs sur place qui sont diplômés comme en France ou en Europe. Hein. Ça n'existe pas des ludothécaires malheureusement diplômés ici au Québec.
Est-ce que tu es en train de nous dire finalement que tu n'as pas de diplôme?
Malheureusement, non. Mais j'ai beaucoup d'expérience de mère et de en tant que mère et que personne intéressée à jouer. Je suis intéressée à aller développer ce marché-là parce que j'y crois. Et j'ai une équipe en arrière de moi, Annick Campeau, qui est la directrice de la ludothèque, qui, elle est là depuis 8 ans déjà, puis qu'elle y croit depuis ce temps-là. Mmh. Puis je crois qu'il faut une équipe solide pour pouvoir avancer puis pour être dynamique puis pas avoir peur de ce qu'on peut apporter aux gens. Puis, parce que les gens ne connaissent pas ça, là. Aujourd'hui, là, on en parle, puis je suis étonnée que vous m'avez appelé, que vous avez appelé, puis que ça a été fait avant que j'arrive, parce que moi, ça fait seulement 2 semaines que je suis là. Puis c'était mon objectif d'aller atteindre, justement, les radios, télévisions, s'il faut, journaux.
En fait, je vais t'avouer une chose, Manon, c'est un rêve pour moi d'en voir une à Québec, là, une ludothèque, là, parce que ça fait vraiment très, très longtemps que je me dis que ça manque dans ce beau paysage qui est celui de la capitale nationale. On a un très, très beau réseau de bibliothèques qui est extraordinaire, mais on n'a pas vraiment de ludothèque au sens strict du terme. Puis ça, c'est vrai que j'étais très content de pouvoir voir enfin qu'il y ait quelque chose dans ce sens-là qui s'est développé sur la rive sud. Puis c'est un petit peu pour ça aussi qu'on vous a contacté, parce que c'est important. C'est vraiment très, très important. Moi, je trouve que c'est... D'ailleurs, je me pose la question peut-être de manière plus élargie. Pourquoi ça s'est tant développé, cet esprit-là, je dirais, de ludothèque, de louer des jeux, d'aller dans des endroits particuliers en Europe? Et pourquoi ça s'est beaucoup moins développé ici, au Québec? Est-ce qu'il y a une raison quelconque qui puisse expliquer ce phénomène?
C'est simplement que ce n'est pas dans les mœurs. Je crois que le jeu ici n'est pas considéré comme éducatif, tandis qu'en Europe, c'est considéré comme éducatif, le jeu. On ne le prend pas au premier plan. Nous, le jeu, c'est simplement pour nous divertir et non pour s'éduquer. Alors, à ce niveau-là, on a beaucoup de différences. Là-bas, en Europe, commence l'école à 2 ans. Nous, ça commence à 5 ans. C'est déjà une grosse différence aussi. Les jeunes ici, je vous dirais bien qu'à partir de 12 ans, c'est rare qu'ils vont suivre leurs parents ou c'est rare qu'on va les voir assemblés devant un jeu quelconque, malheureusement.
Et oui, le début de l'adolescence, malheureusement, pour eux. dis-moi, est-ce que tu sais combien il existe à peu près de ludothèques au Québec?
2.
Oh, c'est vrai?
2 qui sont considérées comme ludothèques, nous, et 1 à Montréal.
Mon Dieu, oui, d'accord. Donc, d'autant plus important de venir vous voir pour savoir exactement à quoi ça ressemble. Dis-moi, est-ce que tu pourrais rappeler l'adresse exacte où vous êtes situé, puis comment on peut se rendre là-bas, et puis quelles sont les heures d'ouverture, etc., etc.?
Avec plaisir. Alors, nous sommes situés au 2225 sur le boulevard de la Rive-Sud à Saint-Romuald. C'est le centre-ville de Saint-Romuald. Vous pouvez prendre le pont de Québec et continuer tout le temps tout droit. C'est pas bien, bien compliqué, là. Vous dépassez tout ce qu'il y a de marché jusqu'au centre-ville. Et nous sommes situés, je vais faire une nouvelle annonce aussi, Energy Gym qui est en face de nous. Présentement, on a une pancarte, c'est Maison de la famille. Au mois de mai, nous aurons notre belle pancarte ludothèque aussi.
Bon,
éventuellement, je sais qu'éventuellement, on a un projet d'agrandissement. Mais là, c'est tout frais, je ne peux pas dire exactement. Mais ça sera tout près de là.
J'espère que tu nous tiendras au courant, en tout cas. Là, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt.
J'ai pas fini. Les heures d'ouverture.
Oui, excuse-moi, je te coupe la parole. Vas-y, fonce, continue.
Alors, du lundi, mardi et mercredi, nous sommes ouverts de 9h à 17h. Et les jeudis, vendredis, jusqu'à 9h le soir. Le samedi, jusqu'à 4h de l'après-midi.
L'inscription est de combien?
De 5 $ seulement. Et si vous désirez venir nous voir, regardez, vous n'êtes pas obligé de vous inscrire. Les portes sont ouvertes pour tout le monde. Si vous venez jouer sur place, on vous accepte avec plaisir. Et si vous voulez faire de la location, vous vous inscrivez à 5 $ par famille, par année. que vous soyez 3 dans la famille ou que vous soyez 10 dans la famille, c'est 5 $. Et c'est 2 piastres par jeu par semaine.
En tout cas, c'est sûr que Puissance Maximale va être là quasiment tous les week-ends. C'est une certitude.
On vous invite de plus parce que j'ai monté un petit concours. Alors, ceux qui s'abonnent présentement ont la possibilité de gagner un gros coco de Pâques. Hein? Le Pâques s'en vient et on veut bien servir nos clients. Alors, nous, on vous offre la possibilité de gagner un gros coco de Pâques, un gros lapin de Pâques là, présentement.
C'est extraordinaire. Et en plus, tu es venu avec un autre cadeau parce qu'aujourd'hui, tu vas faire tirer finalement à tous nos auditeurs la possibilité de gagner un an d'abonnement.
Un an d'abonnement, effectivement.
Un an d'abonnement à la ludothèque, qui est quand même extraordinaire. Donc, surtout, très chers auditeurs, vous le savez, comme à chaque semaine, eh bien, il faut être membre de CKIA pour participer, mais vous pouvez aussi ne pas être membre de CKIA. Ce n'est pas grave parce que vous avez juste à le devenir. Comme ça, vous allez pouvoir profiter de tous les cadeaux que nous donnons chaque semaine, puisque à chaque lundi, Puissance Maximale est toujours heureuse de vous remettre un jeu ou quelque chose qui va dans ce sens-là. Je vous rappelle le numéro de téléphone, c'est le 529-90-26. Il s'agit de gagner un an d'abonnement à la ludothèque de... comment s'appelle la ludothèque? La maison de la famille.
La ludothèque des Chutes de la Chaudière?
Oui.
Maison de la famille, effectivement.
En tout cas, Manon Roy, merci beaucoup d'être venue.
Et ça m'a fait plaisir. J'espère que vous allez me recontacter et qu'éventuellement, j'aurai du nouveau à vous dire.
En tout cas, donc surtout, n'hésitez pas à téléphoner. Je rappelle le numéro de téléphone. C'est le 529-90-26 pour gagner un an d'abonnement à la ludothèque de la Maison de la famille. Et puis, surtout, attendez peut-être le temps que la musique commence. Et puis, merci beaucoup encore, Manon. Et puis, à très, très bientôt.
Merci.
Au revoir à
vous.
Toi.
Au revoir. T'as pas parlé, toi?
We'll be right back. Jean-Jean aussi écoute Puissance Maximale.
Et oui, toujours sur les ondes de CKIA, c'est l'émission Puissance Maximale. Et puis, eh bien nous, comme chaque mois quasiment, eh bien nous avons le plaisir de nous propulser à Montréal pour aller discuter avec notre succube démoniaque préférée, notre louve des jeux de plateau. J'ai nommé Chantal Campagna, alias Fraulein Evil. Bonjour Chantal.
Bonjour Sébastien.
Waouh, ça fait plaisir de te voir. En plus, tu viens juste de me dire que tu avais passé ta journée dehors, donc j'imagine que tu es en pleine forme.
En pleine forme pour jouer à des jeux et en parler, effectivement.
Bon, ben c'est super. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de merveilleux dans le monde des jeux de plateau qui vont bientôt sortir et que tu vas pouvoir nous faire découvrir comme à chaque mois?
Bon, écoute, je vais te parler de quelque chose qui est sorti la semaine passée, qui était grandement attendu par tous les amateurs de jeux de train, et je nomme Rails of Europe, l'extension finalement pour Railroad Tycoon, le jeu de train qui avait été publié par Eagle Game il y a quelques années. Rails of Europe consiste en un nouveau plateau en Europe. Voyons comment les tycoons du rail américain seront capables de se débrouiller en Europe. Alors voilà, c'est
Tout à fait. En fait, c'est quand même, pour juste rappeler à tous nos auditeurs, Railroad Tycoon, c'est vraiment un des gros jeux de plateau qui, à l'heure actuelle, fait toujours beaucoup plaisir à tous les aficionados des jeux de plateau.
En fait, Railroad Tycoon est un jeu de train qui est quand même avec une mécanique qui est assez simple, assez accessible. C'est pas tout à fait un jeu de famille, mais ce n'est pas aussi complexe qu'un jeu de train pur et dur comme la série des 18XX ou Age of Steam, le fameux jeu de Martin Wallace. Donc, c'est un jeu qui est plus accessible, qui est extrêmement dynamique. Je pense que cette extension-là était très, très attendue aussi, parce que le Railroad Tycoon a beaucoup, beaucoup de fans.
Tout à fait exact. Dis-moi, est-ce que c'est un jeu qui est déjà arrivé ou est-ce que c'est un jeu qu'on attend? Parce que toi, tu as la grande spécialité de nous annoncer ce qui est encore dans le bateau.
C'est un jeu qui est sorti la semaine passée, en fait, devient disponible au Canada cette semaine. Donc, il devrait se faire distribuer à travers la province cette semaine pour ceux qui ne peuvent point attendre. Présentement, j'en tiens une copie dans mes mains, mais c'est la mienne.
J'espère qu'on pourra en profiter quand même. dis-moi, Chantal, quel autre jeu est sorti ou va sortir dans le mois qui vient?
Écoute, dans le mois qui vient, un autre jeu qui est très, très attendu, c'est la version française de Tide of Iron, qui nous est offerte par Ubik sous le nom de L'Aube d'Acier. C'est un gros jeu qui est assez pesant, ça dure quand même assez beaucoup de temps. Dans la tradition de Fantasy Flight Ubik, un jeu avec un plateau immense, 8 millions de pitounes, plein de dés. C'est un jeu qui est magnifique, qui est très, très apprécié et qui était aussi très attendu en version française. Donc, moins d'un an plus tard, le voilà. La semaine prochaine ou la semaine qui suit, pour le mois de mars, c'est sûr et certain.
Dis-moi, ça commence à être une tendance assez lourde, finalement, de voir des très, très gros jeux avec énormément de matériel. C'est quasiment une tendance qui, avec, par exemple, StarCraft, a commencé à prendre de l'ampleur.
Mais en fait, Ubik et Fantasy Flight font équipe depuis plusieurs années pour nous apporter les versions multilingues, finalement. Fantasy Flight s'occupe du développement, le fait en anglais, Ubik le reprend, s'occupe de la traduction et s'occupe de le diffuser en Europe et évidemment nous le donne à nous aussi parce qu'on est francophones. Ils travaillent extrêmement bien, c'est un tandem qui est très très bien huilé, ils sont absolument merveilleux. Mais cela dit, Ubik ne se spécialise pas seulement dans les jeux très très lourds, il nous apporte aussi pour le mois de mars Munchkin 4. Son destin est scellé, alors c'est l'expansion numéro 4 pour le jeu de cartes Munchkin, en fait numéro 4 qui est la troisième expansion. Donc ça aussi c'est très attendu pour le mois de mars, surtout que pour un paquet de problèmes de production, l'extension 2 et l'extension 3 ne sont plus disponibles sur le marché depuis un bout de temps. Donc pour tous ceux et celles qui ne se peuvent plus attendre, votre destin sera scellé au mois de mars avec l'extension Munchkin 4.
Dis-moi, on se situe dans quel milieu ou dans quel contexte avec cette extension-là?
Cette extension-là, comme son nom l'indique, votre destin est scellé, ça explore le monde des montures. Donc, des tigres fantastiques, des licornes, des dragons, etc., etc. Donc, ça va apporter beaucoup aux personnages qui vont pouvoir se déplacer peut-être plus vite, peut-être pas. Ça dépend de qui joue la carte.
Et dis-moi, comme autre sortie, qu'est-ce que tu nous prévois de beau?
Écoute, il y a une extension pour le jeu Runebound, le jeu d'exploration qui s'appelle L'île de la terreur, qui est la traduction de Island of Dread. Toujours de Ubik. Sinon, il y a, pour les amateurs d'horreur, le jeu de rôle de Cthulhu, 6e édition, finalement, qui va devenir disponible au mois de mars, qui nous est offert par 7e Cercle, qui nous offre toujours du jeu de rôle d'extrême qualité. Ensuite, écoute, on ne peut pas contourner l'As d'or de l'année, qui a été couronné ce 15 de février. Donc, Marrakech, un jeu avec plein de tapis qui a été couronné As d'or jeu de l'année 2008 par le jury de l'Âge d'or de l'As d'or à Cannes cette année, donc tout nouveau, tout beau. Malheureusement, nous n'avons toujours pas de date pour connaître sa diffusion ici au Québec, mais ça ne devrait tarder, étant donné que c'est maintenant un jeu qui a été couronné.
Oui, tout à fait. Tu fais très, très bien d'en parler parce que c'est vrai qu'on est passé complètement à côté sur cette émission-là des As d'or, le fameux festival de Cannes qui regroupe chaque année finalement tout ce qui se fait de beau et de bien au niveau des jeux de plateau, puis qui, d'après ce que tu viens de nous annoncer en primaire, parce que je ne le savais pas, c'est Marrakech qui a gagné.
C'est Marrakech qui a gagné. Écoute, il faisait face à des adversaires de taille. Bon, comme les Princes de Florence, les Piliers de la Terre, Yispahan, Quiproquo. Donc, il y avait toute une liste. C'est 10 finalistes, finalement, qui se sont luttés, qui se sont fait la lutte pour la première place. C'est Marrakech qui a gagné, un beau jeu de famille, qui je pense, va être à découvrir. Mais j'ai bien hâte de voir qui va nous l'apporter, qui va nous l'offrir. Je sais que c'est Gigamic, mais bon... Au niveau de la distribution, on verra, c'est à voir. Mais en attendant,
oui.
Vous pouvez tout de même jouer à Hero Immortal King. Un génial petit jeu de cartes qui nous a été offert par Asmodée Éditions. C'est un jeu pour deux, où on peut aussi jouer en solitaire. Essentiellement, c'est ce qu'on appelle un dungeon crawl, donc jeu d'exploration. Un joueur gère un groupe d'aventuriers qui essayent d'aller chercher le trésor, de tuer le monstre ou peu importe, donc traverse le donjon, ramasse le trésor, tue des monstres et tout pour arriver au bout, et un autre joueur, lui, est le maître du donjon. C'est lui qui vous met des bâtons dans les roues. Maintenant, quand vous jouez une version solitaire, à ce moment-là, il n'y a pas de maître du donjon, vous n'êtes que le vous êtes le gérant de votre équipe d'aventuriers et vous essayez de tuer la monstre, mais évidemment, vous jouez contre le jeu. Il y a moyen de mourir quand même de façon très, très violente.
J'espère. Écoute, Chantal, merci beaucoup. C'est tout le temps qui nous reste, malheureusement, puis on va te souhaiter de retourner au beau temps, puisqu'à Montréal, il fait encore plus chaud, je suis sûr, qu'à Québec.
Ah oui, il fait extrêmement chaud ici. C'est merveilleux. Maintenant, le mois prochain, je vous parle de potins exclusifs.
Ah oui, vas-y.
Concernant Agricola.
Oh, ben c'est toute une annonce que tu nous fais. En tout cas, on a vraiment hâte. Peut-être qu'on pourrait même reporter la date et puis te revoir dans 2 semaines au lieu de te voir dans 3 ou 4 semaines.
Ah, écoute, si vous êtes trop impatient, je serai prête à l'écoute, fidèle au poste.
Et en tout cas, merci beaucoup, Chantal. Et puis, bon retour à Montréal, même si c'est uniquement sur les ondes téléphoniques. Salut.
Bye-bye.
Ça y est, je me marche, je sens, ça coule, ça bouge, en dernier, ça va tout croche. J'ai un fat au cœur, les grains de train de roche. Ça y est, je me marche, la fin approche. J'entends déjà le médecin me dire qu'il reste bien 2 jours à vivre. J'entends déjà ma blonde qui pleure à la mort en signant dans le paranoïa, le mal me gruge, m'en foisson pas. Je suis belle plein de trous, je suis rempli de claques. Diagnostic hypo condéliaque. J'entends déjà les sympathies du monde venir aussi.
cimetière, j'attends déjà les cliquetis, les clés du portail de Saint-Pierre. Ça y est, je me meurs de ça, ça couille, ça bouge en dedans, puis ça va tout croque. J'ai un fac au cœur, le rein plein de roches. Ça y est, je me meurs, la fin approche. Super motif, ma paranoïa. Le mal me truche, mon poids suit pas. J'suis plein de blagues rouges, j'suis rempli de plaques. Diagnostic hypochondriaque. J'entends déjà le médecin me dire qu'il me reste bien deux jours à vivre. J'entends déjà ma blonde qui pleure à la mort en signant d'un gaulé.
Je suis Madame Folle et à tous mes voyages à Rouyn-Noranda, j'écoute Puissance Maximale.
Et oui, toujours sur les ondes de Puissance Maximale et en rediffusion sur... Bah, on est sur les ondes de CKIA, mais on est aussi en rediffusion sur les ondes du petitpeuple.fr. C'est peut-être même là que vous êtes en train de nous écouter. Puis bah, bien maintenant, juste après Chantal, Fraulein Evil, qui nous parle de toute façon toujours de gros monstres et de situations absolument... terrible, eh bien, il y a des moyens aussi de pouvoir contrer les forces du mal grâce à des armes en mousse. Et puis c'est Kevin qui va nous en parler, Kevin Labrec que je reçois aujourd'hui, qui est notre chroniqueur Grandeur Nature et qui va nous parler de comment faire des armes de tout acabit, de toutes sortes, pour pas très très cher.
Vraiment pas cher. Donc, je vais commencer par un petit historique des armes. Ça a commencé, le premier Grandeur Nature arrivé à Québec, ça s'appelait Fantasmagorie. Puis c'est un GN, malheureusement, qui est décédé. Ces deux équipes sont parties chacun de leur côté pour créer La Crypte et Imagica, deux grandeurs nature que j'ai malheureusement pas pu aller visiter. Mais cet été, je vais me reprendre pour ça.
On n'en doute pas une seule seconde. Et donc, c'est ces deux-là qui ont inventé les armes.
Oui,
on leur doit les armes, on leur doit la guerre.
On leur doit les premières armes non évoluées. Contre les monstres un peu pittoresques. Donc, ça commençait avec seulement un isolant à tuyaux et un recouvrement d'isolant avec un petit peu de tape gris. Ça ressemblait à des beaux gros pogos.
Puis ça faisait vraiment mal comme un pogo.
Ça faisait mal comme un pogo et en plus, c'était zéro crédibilité. On n'embarquait pas dedans, pas du tout.
Ça dépend si t'as un gobelin avec un pogo dans la main, là, ça peut quand même faire peur. En tout cas, ça dépend pour qui.
Avec une belle grosse quenouille en mousse. Et c'est ça, pour les haches, c'était le même type de tuyau PVC, mais avec un gros bloc au bout. Donc, c'était une belle grosse brosse à dents. Là. Vraiment, ça faisait dur. Donc, il y a deux hommes qui ont innové. C'est des gens qui ont participé au Grandeur Nature de Terre Sauvage, qui lui aussi est décédé il y a quelques années. C'est Hugo Rangois et Geoffroy Noël, qui en 1988 ont décidé de rendre les armes belles pour les Grandeurs Nature. Donc, ils ont commencé à faire des principes de hache et de masse pour les rendre de plus en plus belles, des tests et des tests à n'en plus finir. Et ils ont fini en 1989 par faire des belles armes. Puis, ils sont décidés à mettre des gardes sur leurs épées et des lames en isolant un tuyau. Ce qui faisait des lames un peu larges et un peu laides, mais on ne se battait plus avec des pogos, ce qui rendait les grandeurs nature, ma foi, merveilleux.
Est-ce que tu es en train de nous expliquer que les armes en mousse ont été inventées au Québec? Ou c'est juste le développement au Québec que tu es en train de nous présenter, là?
Oui, c'est le développement au Québec.
Oui, d'accord. En fait, si j'imagine qu'il y a quand même d'autres personnes qui avaient inventé des armes en mousse ailleurs dans le monde.
Oui, c'est sûr et certain. Puis les Européens, eux autres, se sont lancés dans le latex tout de suite. Mais pour nous autres, les pauvres petits Québécois, on n'a pas assez d'argent pour faire des belles armes en latex chez nous, dans notre chez nous. Et on n'a pas assez d'argent pour les acheter dans la magnifique compagnie de Calimacil, qui font les armes, ma foi, merveilleuses, mais un peu dispendieuses. Donc pour les gens qui veulent avoir des belles armes, allez chez Calimacil, ils font des excellents. Armes.
Mais là, ce n'est pas le propos. Là, on va parler justement de la possibilité d'avoir des belles armes quand même si c'est fait un petit peu à la main. Là.
Oui.
Mais avec justement ce qu'on peut retrouver dans toutes les bonnes maisons.
Toutes les bonnes maisons, toutes les bonnes quincailleries à prix réduit. Donc, c'est ça. Après les années 89, les merveilleux organisateurs de la Terre sauvage ont découvert le tapis de sol bleu, là, les espèces de tapis de camping. Là.
Oui, oui, je vois tout à fait. Oui.
Et puis, ils ont décidé de faire leur lame là-dedans, ce qui fait que l'épée durait beaucoup plus longtemps. En le fond, elle était beaucoup plus belle. Là. Puis, ils ont aussi innové un petit système de garde pour faire des belles épées. Là. C'était merveilleux. Puis, ce GN-là, justement, là, il équipait 150 joueurs en armes, plus leurs monstres. Donc, les grandeurs nature, là, c'est plus que 150 armes parce que le monde ne se bat pas tous avec le même type d'armes. Donc, 150 armes, un paquet de boucliers, c'était incroyable. On arrivait là-bas avec notre costume, c'était tout. Là.
Et puis, les armes étaient toujours enveloppées de ce super beau tape gris.
Oui, le beau tape gris
qui fait tout le charme des armes en mousse.
Oh oui, ça rend les armes très belles et c'est excellent. Donc, si je passe à la fabrication des épées, à la façon Terre sauvage, des belles armes sécuritaires et peu coûteuses. Donc, si vous voulez avoir des renseignements plus en profondeur, allez sur mon site de Mon Gardeur Nature qui est midgardgn.cjb.net dans l'onglet personnages et dans l'onglet fabrication armes. Il y a des belles petites photos, c'est expliqué très bien et si jamais il y a des choses que vous ne comprenez pas, venez me parler, mon adresse email est sur le site de Puissance Maximale, c'est kevinlab@commercial.com, Kevin avec juste des E et lab, L-A-B, @commercial.
Et il ne vous recevra pas avec une arme dans la main, promis.
Oh non,
il est quand même très civilisé malgré ses aspects parfois un petit peu barbares.
Je vais vous accueillir avec un beau grand sourire. Donc, je vais vous défiler une petite liste d'équipements pour faire une arme qui est une arme de base. Donc, tout commence avec le tuyau de plastique CPVC. Ce qui est bien important, c'est un CPVC. C'est un tuyau beige d'une grandeur 1/2, ce qui va donner une rigidité parfaite pour votre arme. Ensuite, de l'isolant tuyau 1/2 pour aller sur votre beau tuyau. Et du ruban adhésif gris de la marque Duct Tape, la marque Canard. Très important, c'est un tape qui est, ma foi, sublime pour nos armes. Et ensuite, du ruban adhésif noir, facile à trouver chez Dollarama, et du tapis de sol bleu que vous pouvez trouver dans n'importe quel magasin de camping ou même dans nos belles quincailleries, il y en a. Donc, avec tout ce matériel-là, vous pouvez faire une belle arme de base et vous faire un petit garde manuellement, ce qui va vous permettre d'avoir une arme acceptable dans le milieu des grandeurs nature. Et si vous voulez aller pousser votre arme plus loin, allez mettre un beau garde, ça va vous prendre un T en plastique, encore une fois pour les tuyaux 1/2 et de la colle à PVC. Avec ça, là, vous êtes prêt pour aller dans n'importe quelle grandeur nature avec une arme magnifique.
Puis ça coûte à peu près combien lorsqu'on fait le calcul de tout le matériel?
Jake, votre première arme va vous coûter 30$, mais vous pouvez vous rendre jusqu'à une dizaine d'armes en rajoutant un 20$. Ce qui est cher, là, c'est le tapis de sol bleu. Ça coûte environ 20$, mais le reste de l'équipement, là, vous en avez en masse pour faire un paquet d'armes.
Mais c'est extraordinaire. En plus, j'imagine que tout est possible quand lorsqu'on a une arme. On peut imaginer des gros marteaux, on peut imaginer des petites armes à une main. On peut tout imaginer, finalement.
On peut tout imaginer. Justement, sur mon site, je vais réactualiser le site. On va expliquer comment faire des haches, des armes et des masses de façon excellente. Puis voir des belles petites photos, puis tout va t'expliquer.
Puis dis-moi, ça prend à peu près combien de temps d'en faire une pour le néophyte que je suis? Ma première arme va me prendre à peu près combien de temps?
La première arme, c'est un vrai casse-tête. Vous allez passer tout votre temps en avant du site, en avant des petites photos, essayer de comprendre les textes et tout, même si c'est très simple. Il faut les faire parfaitement pour que ce soit merveilleux. Donc, la première arme, je dirais, là, vous allez mettre une bonne heure dessus, là, à comprendre comment tout marche, là.
Une bonne heure et puis après une vie entière pour essayer de la maîtriser. C'est ça la grosse différence. Oh oui. Merci beaucoup Kevin pour ces explications. C'est à peu près tout le temps qui nous reste aujourd'hui. On va passer immédiatement aux remerciements pour cette semaine. Merci à tous de nous avoir écoutés. D'abord, vous auditeurs que nous aimons beaucoup. Si vous avez la moindre question, si vous avez envie de nous retrouver un petit peu plus tard sur le site internet de Puissance Maximale, c'est très très facile. C'est le www.puissancemaximale.com. Et évidemment, vous pouvez nous réécouter tout simplement en allant sur lepetitpop.fr. C'est un petit pop-up qui s'ouvre et c'est très facile d'accès. Donc, on va vous remercier tous de nous avoir écoutés. On va vous dire à la semaine prochaine. Au micro, c'était Sébastien Léonard. J'étais avec Kevin Labrecque en ce moment même qui nous a parlé de comment faire fond. sa propre arme en mousse. Tout à l'heure, nous recevions Manon Roy de la ludothèque de Saint-Romuald. Et puis, la semaine prochaine, on vous promet énormément d'autres jeux et d'autres moments trépidants. On vous souhaite une très, très, très bonne semaine et on se dit à la semaine prochaine. Salut à tous.
Get a little harmonica. I got my 12-sided die and I'm ready to roll with a wizard and my goblin crew. My friends are coming over to my mom's basement bringing Funyuns and the Mountain Dew. I got a big broad sword made out of cardboard and that stereo's a pumping Zeppelin. It's that time of the night, we turn on the black light. Let the dungeons and the dragons begin, it's D&D! Fighting with the legends of yore, it's D&D! Never kissed a lady before. Nope. Mm-mm. Woo! All right. Take it home. A little solo for it. One more time.
Ne correspond pas exactement à ce que vous croyez être une femme libre? Alors écoutez Ainsi Squat-t-elle, le magazine féministe libertaire. On vous y présente des groupes et des personnes qui nous inspirent la réappropriation de notre corps, de l'espace public, de notre monde symbolique, bref, de notre pouvoir d'action. Sans oublier nos suggestions de sorties militantes et ou féministes.